Dans cette première partie, nous allons poser des bases solides pour redéfinir votre rapport au temps. Les astuces quotidiennes, aussi efficaces soient-elles, n'ont de sens que si le terreau est déjà fertile. Vous découvrirez les réponses à trois questions fondamentales sur ce qu'est vraiment le temps, puis, à l'image d'Alice s'enfonçant dans le terrier du lapin, je vous guiderai de l'autre côté pour vous aider à déconstruire les illusions qui peuvent façonner votre procrastination, votre sentiment de manquer de temps ou vos schémas de pensée. Je tiens à vous présenter mon système, mais ne suivez rien à la lettre. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous semble utile. Mettez de côté ce qui ne vous correspond pas ou transformez-le pour mieux vous l'approprier. Cependant, écoutez attentivement toute cette partie. Même s'il ne s'agit pas de bâtir un dogme, il est fort probable que certains éléments résonnent en vous suffisamment pour commencer à fissurer le miroir des illusions. Qu'est-ce que la perception du temps ? Ainsi fonctionne le temps. Je ne suis évidemment pas le premier à m'être intéressé au temps. En explorant les travaux de divers chercheurs et penseurs, il n'est pas rare de découvrir des conclusions pratiques, intéressantes ou inspirantes. Ces conclusions s'appellent « les lois du temps ». Dans mon précédent livre audio, je vous parlais de deux de ces lois, la loi de Parkinson et celle de Laborie. Je ne souhaite pas me répéter, alors voici un simple rappel de ces concepts. Loi de Parkinson. Tout travail tend à se dilater pour occuper l'intégralité du temps disponible. Pour faire simple, si vous avez 3 jours pour nettoyer votre maison, vous mettrez 3 jours. Mais si vous avez 4 heures pour le faire, alors vous mettrez 4 heures. La plupart des actions productives se déclenchent aux abords de la fin du temps disponible. Loi de Laborie. Notre cerveau priorise instinctivement selon la loi du moindre effort. Ces principes, simples en apparence, offrent des clés précieuses pour comprendre et optimiser notre rapport au temps. Les lois du temps. La loi d'Illich, le rendement décroissant. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, toute tâche, si elle s'étire trop dans le temps, tend à perdre en efficacité. Prenez votre jeu favori. Qu'il s'agisse d'un puzzle, d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo, vous savez qu'au bout d'un moment, vous serez moins performant. Alors que vous aimez et passez a priori un bon moment. Les ressources nécessaires pour rester « bon » s'épuisent et il devient indispensable de vous arrêter, ou à minima, de faire une pause. C'est ce qu'a voulu théoriser le penseur et prêtre autrichien Ivan Illich. Philosophe et critique de la société industrielle, il a développé, au début des années 1980, le concept de contre-productivité. Cette loi postule que l'improductivité finit par remplacer la productivité dès que l'on dépasse une certaine durée consacrée à une seule et même activité. Si cela semble évident à première vue, une idée plus profonde mérite d'être saisie. En organisant vos tâches de manière chaotique, sans règles claires, la productivité décroît inévitablement au fil de la journée, ni plus ni moins. Voici comment j'ai tenté de résumer la loi d'Illich. Toute performance tend à décroître proportionnellement dès qu'un temps donné est dépassé en fonction de la nature de l'activité. Il ne faut jamais sous-estimer vos ressources naturelles, comme votre capacité de concentration, si vous souhaitez organiser une vie productive, que ce soit pour les loisirs, le travail ou la vie personnelle. Les temps de pause et l'alternance des activités sont essentiels pour maintenir un bon niveau de performance. La loi de Carlson, le pire ennemi du temps. Mesdames et messieurs, je vous présente un sérieux challenger à Ivan Illich, j'ai nommé Sune Carlson. Cet économiste suédois, actif entre 1939 et 1975, a largement écrit sur la productivité, la charge de travail et les méthodes de travail. La loi qu'il a formulée semble en opposition avec celle que vous venez d'apprendre. Carlson affirme qu'un travail effectué en continu demande moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs étapes. Et il n'a pas tort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Carlson parle ici des interruptions non volontaires, pas des pauses que l'on décide de faire consciemment. Depuis quelques décennies, la science a démontré qu'une interruption génère un coût cognitif pour le cerveau. Ce coût se mesure en énergie, en fatigue et en perte de concentration. Sybille Thureau, docteur en psychologie cognitive à Montpellier, et Anne-Sophie Cazès, professeure des universités au laboratoire MRM de Montpellier, ont étudié ce phénomène en lien avec un problème majeur de notre époque, la connectivité et les distractions numériques. Leurs recherches révèlent une réalité alarmante. Dans les entreprises, les salariés utilisant les emails passent en moyenne 1h30 par jour à récupérer de la fatigue cognitive causée par les interruptions liées à l'arrivée constante de nouveaux messages dans leur boîte de réception. Ramené à une semaine de travail de 5 jours, cela équivaut à une journée entière consacrée uniquement à se remettre des effets de ces interruptions numériques. Selon les travaux des deux chercheuses, ces interruptions provoquent une augmentation de la charge de travail ressentie, une montée du stress, un sentiment de frustration et une impression de perte de contrôle. En somme, le fameux « je suis sous l'eau ». Morceler une activité involontairement engendre une fatigue mentale importante et accroît le risque d'erreur dû à une mauvaise concentration. Pour être efficace dans une tâche, il est essentiel de vous isoler des distractions et de préserver sa continuité. La loi de Fress, l'alignement logique. Nous terminons avec une troisième et dernière loi, celle que je suis constamment obligé de me rappeler. Elle semble évidente, mais nous la négligeons tous, quel que soit notre domaine d'activité. Nous verrons d'ailleurs dans cette première partie que tout ce qui semble évident est considéré comme peu intéressant par le cerveau. Paul Fress, psychologue français, cocorico, partageait une fascination similaire à la mienne, la perception du temps. Toutes ses recherches s'articulent autour de ce thème. En 1963, il coécrit un ouvrage fondamental, le Traité de psychologie expérimentale, avec Jean Piaget. Puis, en 1967, il développe seul le concept de chronopsychologie dans son livre « Psychologie du temps ». L'une des lois majeures qu'il propose repose sur une idée simple. Une heure n'est pas systématiquement égale à une heure. Je vous laisse réécouter cette phrase étrange. Une heure n'est pas systématiquement égale à une heure. En d'autres termes, lorsque vous faites quelque chose qui vous plaît, vous avez tendance à ne pas voir le temps passer et donc à y consacrer beaucoup plus de temps que prévu, indépendamment de l'importance réelle de cette tâche. À l'inverse, vous procrastinez volontiers pour les tâches ennuyeuses ou difficiles, celles que vous n'avez pas envie de faire, pour finalement les bâcler, quelle que soit leur importance également. La solution que propose Fress est limpide. Aligner le temps que nous consacrons à une tâche avec l'importance qu'elle revêt. Comme pour toutes les lois du temps, cela semble évident une fois formulé. Mais le faites-vous spontanément ? Nous avons une tendance naturelle à nous précipiter sur les tâches qui nous plaisent, à y consacrer un temps démesuré dans les finitions, quelle que soit leur importance. À l'inverse, nous bâclons les tâches pénibles, toujours indépendamment de leur véritable importance. Conclusion. Seulement 3 nouvelles lois dans ce livre audio ? Oui, pour l'instant. Pour conclure ce chapitre, je souhaite vous proposer un exemple qui utilise les 3 nouvelles lois de ce livre audio ainsi que les 2 premières abordées dans l'introduction. Cet exemple est volontairement non professionnel car je tiens à rappeler que ces notions s'appliquent aussi bien à votre vie professionnelle qu'à votre vie personnelle. Après tout, l'accès au bonheur peut être vu comme une tâche à accomplir. Si vous souhaitez libérer votre temps, c'est bien pour en faire ce que vous voulez. Cas concret. Je voudrais lire un roman ou un livre en entier en étant en pleine conscience de ma lecture. Si je décide que j'ai 1 mois pour lire ce livre, je prendrai 1 mois pour le terminer.